L'invité du Grand Show de l'Info ce soir est l'écrivain Emmanuel de Boisson pour son livre Balzac amoureux, publié aux éditions Rabelais. Emmanuel de Boisson, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. Votre dernier livre s'appelle donc Balzac amoureux. Pourquoi avoir écrit sur Balzac? Avez-vous une fascination ou une tendresse spéciale pour le personnage?
Ah oui, j'ai depuis très longtemps une vraie tendresse, voire je suis presque amoureuse de Balzac, parce que lui, il était un vrai amoureux des femmes. C'est quelqu'un qui connaissait bien la psychologie des femmes, qui les aimait, connaissait leurs souffrances, leurs petits secrets, qui les a beaucoup défendus dans un essai qui est très connu, qui s'appelle Physiologie du mariage. Et les femmes allaient vers lui, les femmes étaient, il s'en est beaucoup inspiré, les femmes l'ont fait. Ont cru en lui. Elles ont été des bienfaitrices, elles l'ont introduit dans le monde, elles l'ont aidé financièrement aussi beaucoup. Et donc c'est vraiment un écrivain à femme, un écrivain qui les a défendues, et c'est pour ça, et aussi beaucoup pour sa littérature, en premier d'ailleurs, que j'aime Balzac.
Sud Radio.
Philippe David.
Le Grand Show de l'Info.
Et l'invité du Grand Show de l'Info aujourd'hui est l'écrivain Emmanuel de Boisson pour son livre Balzac amoureux, publié aux éditions Rabelais. Emmanuel de Boisson, votre livre est donc consacré au rapport de Balzac avec les femmes. On ne peut pas dire que son rapport à la mère, le fameux complexe d'Œdipe, ait été excellent, puisque sa mère lui préférait son petit frère, qui était un enfant adultérin.
Oui, ça c'est vrai, il a été mal aimé, ce pauvre Balzac. Elle était, on va dire, castratrice, cette femme. Elle était froide, elle était sèche. Et elle l'a mis en pension d'ailleurs très très tôt, et elle le voyait pratiquement jamais. De 8 à 14 ans, il était chez Vendôme, dans une pension très sévère. Et c'est une des raisons pour lesquelles Balzac a toujours rêvé d'être célèbre, aimé par une femme maternelle, mais aussi une confidente, une grande dame. Alors, il aimait les femmes fortunées, nobles et belles si possible. Mais toute sa vie, je crois que toute sa vie d'écrivain s'explique aussi par ce désir de reconnaissance.
Est-ce que vous expliquez le comportement de sa mère par le fait qu'elle avait une différence d'âge très importante avec le père de Balzac, parce qu'il l'a épousée, elle avait 18 ans et je crois qu'il en avait 51?
Oui, mais son père aimait la gaudriole, c'était un bon vivant.
C'est clair.
Je pense pas que c'est ce qui explique son caractère, parce que c'était une femme qui était, qui aimait être entourée d'admirateurs, qui était mondaine, qui s'occupait pas de ses enfants, et qui en revanche a eu un amant, et ce fils qui était vraiment tout pour elle, et qui n'a jamais rien fait de sa vie d'ailleurs, ce pauvre Henri.
Exactement, il a été beaucoup moins connu, même inconnu par rapport à son frère, qui est devenu, une star mondiale de la littérature. Balzac, il avait également deux sœurs, qui s'appelaient Laure et Laurence, tandis que sa mère s'appelait Charlotte. Laure. Ce prénom l'a profondément marqué.
C'est un prénom qui était le prénom de sa jeunesse avec toutes les deux autres maîtresses qui s'appelaient Laure. L'une qui s'appelait Marie-Antoinette, qui l'a appelée Laure, Laure de Berny.
Exactement.
Et l'autre qui s'appelait vraiment Laure, qui était Laure Junot, duchesse d'Abrantès. Et ces deux amours, portaient le même prénom que sa mère et ses deux sœurs, ce qui est drôle. Et il a vécu d'abord un amour fou avec Laure de Berny, qui avait quand même 45 ans et lui 22. Il était le précepteur de ses enfants à Villeparisis.
On va en parler.
Voilà, oui.
Non, mais...
Je continue.
Oui, allez-y. Voilà.
Ouais, donc, il était passionné par cette charmante femme qu'il considérait, qui lui parlait d'égal à égal, et qui représentait pour lui l'Ancien Régime, puisque ses parents étaient au service de Marie-Antoinette, et qui a tout quitté pour lui, qui a été sa protectrice, sa bienfaitrice pendant des années, son initiatrice, et qui a même accepté ses infidélités. Elle lui a pardonné quand il était aussi l'amant de la duchesse d'Abrantès, qui était une femme qui représentait, elle, la
L'Empire.
Légion napoléonienne, absolument, et qui était ruinée, mais très courtisée, et qui il a écrit d'ailleurs ses mémoires, qu'elle s'est appropriées, voilà.
Vous avez parlé de l'Ancien Régime. Balzac, il est né pendant la Révolution française, en plein milieu de la Révolution. Il a vécu les révolutions de 1830 et 1848. Pour faire la liaison avec le premier sujet d'actu, Balzac aimait-il l'ordre?
Oui, Balzac, on va dire, était quand même pas vraiment un réactionnaire, mais un homme de l'ancien temps. Il était très traditionnaliste, il aimait l'ordre, la politique ne l'intéressait pas beaucoup, contrairement à Victor Hugo. Mais je crois qu'il aurait, il appréciait l'armée, il était d'ailleurs, il s'en est inspiré, c'était un homme qui n'était pas du tout avec des idées révolutionnaires, au contraire, il avait même des idées plutôt royalistes.
Légitimistes, on dira.
Sous l'influence légitimiste,
d'une femme.
Sous l'influence d'une une femme, Henriette de Castres, qui a essayé de l'enrôler d'ailleurs et qui n'a pas cédé d'ailleurs à Balzac, qui s'est vengée d'ailleurs en écrivant La Duchesse de Langeais.
Mais on verra un peu plus tard qu'une femme l'a tirée vers le républicanisme aussi. Parce
oui,
que le
vrai.
Premier sujet d'actualité, c'est la sécurité aux frontières qui a été renforcée pour l'Euro de football. Ce sont désormais 80 000 policiers, gendarmes, douaniers et militaires qui sont mobilisés sur tout le territoire. Notre journaliste Vincent Pécher est allé enquêter auprès des forces de l'ordre au Boulou, qui se situe à la frontière franco-espagnole près de la côte méditerranéenne. Nous écoutons son reportage.
Nous sommes à la gare de péage du Boulou sur l'autoroute A9 au sud de Perpignan. C'est le premier poste d'entrée en France. Pour les gens qui viennent d'Espagne, le directeur de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales, Philippe Duporge, détaille le dispositif.
Nous sommes entre 60 et 80 fonctionnaires qui sont déployés sur le dispositif. On peut contrôler systématiquement l'identité de toute personne. Mais là, vous le voyez, on a des policiers qui sont en avant, qu'on appelle des physionomistes, et qui vont effectivement trier. Bon, donc un premier rang avec des physionomistes et le deuxième rang avec le rang de contrôle que vous voyez ici.
Les agents de la police aux frontières contrôlent les papiers des passagers et fouillent les véhicules.
Alors là, contrôle d'identité, contrôle de permis. On va voir si le permis B du monsieur est valide. Et nous allons voir si ces deux personnes ne sont pas recherchées par l'intermédiaire du fichier.
Des usagers globalement favorables à ces contrôles comme ce touriste italien.
C'est très bien de nous contrôler. Je suis favorable à ces contrôles parce que j'aime voyager en sécurité.
D'autres personnes constatent la fatigue des policiers.
Moi, je comprends qu'ils fassent bien leur travail. Ils ont quand même déjà beaucoup de charges. Si on leur en met plus que ce qu'ils ont d'habitude à faire, ouais, non, c'est pas très normal. Mais bon, après, c'est pas vis-à-vis de moi, c'est plutôt vis-à-vis d'eux.
Il fait 30 degrés sur le bitume au milieu des gaz d'échappement. Le travail est pénible pour les hommes de la PAF, déjà sollicités par plusieurs mois d'état d'urgence. Karine, qui travaille à l'action sociale du commissariat de Perpignan, tire la sonnette d'alarme.
Un ras-le-bol général, une pression constante. Ils ont l'impression, les collègues, d'être pressés comme des citrons jusqu'à ce qu'ils arrivent vraiment à un point de non-retour et que là, ils explosent, ils sont fatigués. Plus en plus de problèmes dans les couples dus à la fatigue, puisque les collègues rentrent chez eux, ils sont fatigués, donc ça engendre des disputes. Moi-même, mon mari est sur le dispositif de la PAF, il rentre, il est fatigué, il va crier un peu plus sur les enfants, on va peut-être un peu plus se disputer. Et donc voilà, ça impacte forcément la vie de couple et la vie de famille surtout.
Il faut pourtant tenir le coup avec l'Euro de foot jusqu'au 10 juillet, l'état d'urgence et le Tour de France.
Nous avons avec nous Nicolas Comte, secrétaire général adjoint et porte-parole d'unité SGPFO Police. Nicolas Comte, pardon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez entendu le reportage de Vincent Pécher qui est allé faire son reportage au Boulou. Il y a vraiment un ras-le-bol général chez vos collègues.
Il y a un ras-le-bol général chez mes collègues. Il y a une fatigue généralisée. Effectivement, ça pose des problèmes. Mes collègues ramènent finalement leurs difficultés professionnelles à la maison parce qu'en plus, ça va se traduire par moins de possibilités de prendre de congés cet été. Donc, beaucoup de familles de policiers dans lesquelles les deux conjoints pourront pas prendre leurs vacances au même moment. Beaucoup de mes collègues vont être privés de leurs vacances en famille, comme le font la quasi-totalité de nos concitoyens.
Dans le reportage, une de vos collègues se plaint, je cite, de la pression constante. Elle dit d'ailleurs, nous avons l'impression d'être pressés comme des citrons. Est-ce que finalement, les forces de l'ordre ne sont pas malléables et corvéables à merci puisqu'elles n'ont pas le droit de grève ? Je profite du fait que vous soyez syndicaliste pour vous poser la question.
Oui, bien sûr, mes collègues sont pressés comme des citrons. Alors, plusieurs revendications qui ont été exprimées parce que si on n'a pas le droit de grève, on a le droit de manifester. On a organisé un certain nombre de manifestations, mais il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à être pressé comme ça sans aucune reconnaissance. Nous exigeons une reconnaissance de l'investissement de l'ensemble des policiers qui devra passer notamment par la fiche de paye. Mais au-delà de ça, il faudra que notre administration, notre ministère de tutelle, au-delà des discours de compassion, prennent de vraies dispositions pour permettre à nos collègues de souffler.
Vous avez parlé des problèmes de couple. Est-ce que vous avez aussi des cas de ce qu'on appelle le burn-out ?
On a des cas de fatigue extrême. Alors le burn-out dans la police, malheureusement, c'est quelque chose d'un peu plus répandu que dans d'autres professions. On est dans une profession dans laquelle il y a un taux de suicide qui est assez important. Mais c'est vrai qu'on est assez inquiet pour les mois qui viennent, parce que tout le monde parle de l'Euro de football et du Tour de France, mais on sait qu'après, la pression ne redescendra pas, parce que ces événements que sont l'Euro et le Tour de France s'inscrivent dans un contexte qui est très compliqué, qui est celui de la menace terroriste, et qui va nécessiter une vigilance pendant encore de très nombreuses années, probablement.
Vos collègues se plaignent du manque de reconnaissance humaine et financière, car ils n'ont a priori pas de prime malgré la surcharge de travail.
Non, mais ça, il va falloir que le gouvernement et le ministère de l'Intérieur y remédient. Nous saisissons d'ailleurs dès aujourd'hui le ministre de l'Intérieur pour exiger une prime de reconnaissance sur l'investissement des policiers. Je crois qu'à un moment donné, mes collègues comprennent l'urgence, mais les mouvements sociaux, plus la menace terroriste, plus l'euro, ça mérite reconnaissance. Donc si jamais on ne peut pas passer, tout le monde ne peut pas passer des vacances en famille, eh ben, il faut au moins que, j'allais dire, par ce type de prime, l'État contribue à permettre à mes collègues, par exemple, d'envoyer leurs enfants en colonie de vacances.
Comme dirait le proverbe, toute peine mérite salaire. Au boulot, Vincent Péchère a rencontré des réservistes de la police, c'est-à-dire des retraités de la police. Est-il fréquent qu'on fasse appel à eux ?
Oui, on fait appel à eux de plus en plus, d'ailleurs, parce que les services actifs, les personnels en activité, ne peuvent pas fournir sur tous les fronts. Donc il y a pas mal de réservistes qui viennent travailler un certain nombre de jours dans l'année pour bien soulager les effectifs en activité sur certaines missions qui sont moins opérationnelles.
Globalement, on ne parle plus de flux tendus, mais de flux hyper tendus dans la police et même dans l'ensemble des forces de l'ordre. Quelles seraient les solutions, d'après vous, syndicalistes policiers ? Faudrait-il, par exemple, rapatrier une partie de nos forces armées qui sont en OPEX, en opération extérieure ?
Bon, pour les OPEX, je ne suis pas sûr, parce que d'une part, ils contribuent à la sécurité de la France sur des théâtres d'opérations extérieures. D'autre part, le rôle de l'armée et le rôle de la police sont deux rôles qui sont différents. Mais on peut d'une part travailler à une meilleure organisation du travail, et nous avons des propositions très concrètes que nous avons faites au ministère de l'Intérieur. Et puis à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait le courage politique de prendre certaines décisions. Je pense par exemple à tous mes collègues qui ont été engagés sur Nuit Debout alors qu'ils étaient déjà en train de faire du maintien de l'ordre la journée. Eh bien au bout de quelques jours, on aura pu mettre fin à Nuit Debout. Il est normal que les gens puissent s'exprimer. Mais une fois qu'ils s'étaient exprimés, on aura pu siffler la fin de la récré.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Nicolas Comte. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint et porte-parole d'unité SGPFO Police. Emmanuel Deboisson, ces femmes et ces hommes des forces de l'ordre sont là pour protéger nos vies. Est-ce que vous comprenez leur doléance ?
Ah, je les comprends tout à fait. Je pense qu'ils ont été mis sous pression depuis des mois. Entre Nuit Debout, les menaces terroristes récentes encore, et maintenant l'euro et les mouvements sociaux qui n'arrêtent pas. Et d'ailleurs, je trouve ça un scandale maintenant que ça se prolonge encore. Je trouve qu'ils mériteraient tout à fait des compensations. Et je trouve ça terrible aussi quand vous parliez de burn-out, de difficultés dans leur couple. Ils méritent véritablement...
Une reconnaissance humaine et financière.
Et financière, bien sûr, pas seulement humaine, bien sûr financière, une bonne prime, bien sûr.
Emmanuel Deboisson, vous restez avec nous, c'est l'heure de l'économie avec René Girma. Rebonsoir René.
Rebonsoir Philippe.
Si la France emprunte avec des taux d'intérêt négatifs, ça ne va quand même pas être le cas pour les particuliers.
Oui, pour vous et par moi, ce ne sera pas 0%, mais ce n'est quand même pas cher. Il est encore temps de renégocier donc un emprunt ou carrément d'acheter. Le coût du crédit immobilier a été quasiment divisé par 3 en 4 ans, avec des taux d'intérêt qui passent parfois sous la barre des 1% pour les prêts à 10 ans. C'est du jamais vu. Depuis la grande crise de 2008, les taux d'intérêt sont en chute libre. Pour relancer la croissance, la Banque Centrale Européenne est à la manœuvre en rendant le crédit et donc l'argent plus accessible et moins cher. En 2008, au lendemain de la crise financière, le taux d'un emprunt immobilier sur 20 ans était autour, disons, de 5%. 2 ans plus tard, nous étions à 3,50, c'était déjà un record à la baisse. Aujourd'hui, nous sommes donc entre 1% et parfois 1,5%. Alors, est-ce pour autant que l'on achète ? Eh bien oui, le marché du neuf retrouve des couleurs. Sur un an, les mises en chantier ont progressé de près de 4%. Dans l'ancien, la reprise est observée en 2015 et elle se confirme également. En Ile-de-France, par exemple, les ventes ont bondi de plus 29%. Et pour la France entière, nous sommes à plus 17%. Si vous le pouvez, il est grand temps d'aller courtiser votre banquier.
Merci beaucoup René Girma pour cette bonne nouvelle.
Sud Radio, Philippe David.
Le grand show de l'info.
Et l'invité du grand show de l'info ce soir est l'écrivain Emmanuel Deboisson pour son livre Balzac amoureux, publié aux éditions Rabelais. Emmanuel Deboisson, la première femme dans la vie de Balzac, vous en avez un peu parlé, outre sa mère et ses sœurs, c'est Laure de Berny, qui a peu de choses près l'âge de sa mère, puisqu'elle a 22 ans de plus que lui. Est-ce qu'avec Laure de Berny, il ne cherchait pas un peu quelque part un amour maternel ?
Mais tout à fait. Elle était très maternelle, mais comme sa mère ne l'aimait pas, elle était vraiment celle qui, la première, l'a cru en lui. Elle a cru en l'écrivain qu'il est devenu. Elle l'a beaucoup aidé d'ailleurs dans sa vie. Elle a même corrigé ses textes. Elle lui a fourni des histoires. Elle l'a aidé financièrement. Elle a été l'initiatrice. Et leur amour a duré d'ailleurs très longtemps, malgré la différence d'âge. Elle le considérait comme un égal de son âge. Elle avait une estime telle pour lui, une admiration, un amour. Les lettres qu'elle qui s'écrivent sont extraordinaires d'amour et de tendresse et de soutien mutuel.
C'est d'ailleurs pour elle qu'il a écrit le Lys dans la vallée. Absolument. Une autre liaison essentielle est l'heure d'Abrantès, une veuve qui a, elle, 15 ans de plus que lui. Si Laure de Berny avait connu la cour de Marie-Antoinette, Laure d'Abrantès est la veuve du général Junot, un des généraux de Napoléon. Outre les femmes plus âgées, aimait-il les femmes jouissant d'un statut social élevé ? Ce serait son côté Rastignac.
Ben complètement. Il rêve d'une femme toute sa vie, qui soit fortunée, noble aussi, et voilà, et si possible belle, mais c'est moins important. L'argent étant vraiment le nerf de la guerre dans la vie de Balzac. Bon, comme dans tous ses romans, il est Rastignac et il veut absolument épouser une femme qui ait un vrai statut social, qui l'introduise dans le monde et qui soit riche parce qu'il est endetté toute sa vie, imaginez.
Jusqu'à
Balzac
sa mort.
A raté toutes ses affaires. Il a complètement... D'ailleurs, il était génial. C'est le premier qui a voulu créer une imprimerie avec des tout petits caractères, comme la Pléiade. Ensuite, il a voulu planter des ananas à Ville d'Avray, c'était un échec complet. Il a voulu créer des chemins de fer aussi quand il était en Ukraine. Il avait des idées farfelues et à chaque fois, il s'endettait terriblement. Son imprimerie aussi a fait faillite. Enfin, toute sa vie, il avait des dettes effroyables. Donc c'est pour ça qu'il devait travailler autant et qu'il travaillait toute la nuit en se prenant plein de café à la turque, en essayant de tenir le coup, parce que c'est pour ça certainement qu'il est mort très jeune.
Aussi bon écrivain que mauvais homme d'affaires.
Absolument. Oui, oui, ça va pas ensemble souvent.
Ça arrive, oui. Les artistes ne sont pas souvent de très bons gestionnaires.
Voilà.
Et Emmanuel de Boisson, en lisant les rapports de Balzac avec les femmes, on constate que l'amour et le sexe font partie de la vie. Est-ce que vous seriez, tiens, pour le mariage des prêtres ?
Oh oui, moi tout à fait. Je suis pour parce que je trouve que bon, la vocation actuellement, il y en a de moins en moins. Et puis toutes ces histoires de pédophilie que je trouve effroyables, ce sont des histoires qui sont très anciennes puisque c'est vraiment dans l'Église un problème. Hein. C'est pas nouveau. Donc je trouve que les prêtres devraient se marier. Il devrait y avoir des femmes prêtres aussi.
Ah, je voulais vous poser la question après, mais vous avez déjà anticipé. Et pourquoi les prêtres ne se marieraient pas ? Après tout, les rabbins, les imams ou les pasteurs se marient parce que le second sujet d'actualité, c'est le cardinal Barbarin qui est auditionné aujourd'hui par la police au sujet des affaires de pédophilie dans lesquelles étaient impliqués des prêtres de la région lyonnaise, affaires non dénoncées par l'Église à la justice. Nous avons avec nous notre envoyé spécial sur place, le journaliste Antoine Sillière. Antoine Sillière, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Le cardinal Barbarin a été entendu par la police ce mercredi à Lyon. Il est toujours entendu. Que lui ont demandé les enquêteurs ?
Alors oui, le cardinal, il est arrivé ce matin à 8h au commissariat du 3e arrondissement dans le centre de Lyon. Il était convoqué pour une audition libre en qualité de témoin dans le cadre de l'enquête préliminaire pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs dont il fait l'objet. Il était accompagné d'un de ses avocats, maître Jean-Félix Luciani, et les enquêteurs de la brigade de protection de la famille l'ont entendu pendant de longues heures, comme vous le disiez. La question, c'est toujours la même, c'est de savoir si l'archevêque de Lyon, dont la fonction veut qu'il soit responsable des prêtres de son diocèse, a eu connaissance des actes pédophiles passés de certains d'entre eux.
Le père Prénat, en l'occurrence.
Alors oui, le père Prénat, bien sûr, qui a été mis en examen en janvier, mais il y a aussi le père Billou qui est soupçonné d'agression sexuelle sur un jeune homme de 16 ans. Après, bien sûr, l'affaire Prénat, c'est la plus importante. L'association de victimes, La Parole Libérée, elle a dénombré 67 victimes présumées entre les années 1970 et 1991. Mais pour la plupart, les faits sont trop anciens pour être pris en compte par la justice. Aujourd'hui, il reste 4 plaintes qui seraient a priori valables et pour lesquelles la justice doit établir si les faits sont prescrits ou non. Et cette décision, elle sera rendue vendredi.
Pour le cardinal Barbarin, quelle est la suite ?
Alors cette audition, elle marque la fin de l'enquête préliminaire qui a été lancée au début du mois de mars. Plusieurs proches du cardinal Barbarin ont été entendus ces dernières semaines. Et il y a eu une seconde perquisition menée à l'évêché la semaine dernière. Donc comme prévu, les conclusions de l'enquête préliminaire vont pouvoir être livrées à la mi-juin au procureur de la République, qui décidera de la suite à donner à l'affaire. Donc de là, il aura 3 options possibles. Soit le procureur décide de saisir un juge d'instruction pour lancer une procédure, soit il renvoie l'affaire en correctionnel, soit il décide de la classer sans suite.
On imagine que cette dernière option constituerait une sacrée défaite pour les victimes.
Oui, Oui, bien sûr. Mais Bertrand Virieux, qui est secrétaire de l'association de victimes La Parole Libérée, m'expliquait tout à l'heure que le seul fait de voir le cardinal devant la police constituait déjà une victoire morale, en fait. Les victimes, elles y voient l'aboutissement du processus de libération de la parole, pour reprendre l'intitulé de leur association.
Samedi dernier, le pape a ouvert la voie à la révocation des évêques négligents en matière de pédophilie. Le cardinal Barbarin pourrait-il être inquiété par le Vatican ?
Eh bien non, parce que dans la foulée de la publication de cette lettre apostolique, le porte-parole du Vatican, Federico Lombardi, a précisé que cette décision n'avait pas de caractère rétroactif, donc elle ne pourra pas concerner le cardinal Barbarin. Après, une procédure canonique contre le cardinal pourra toujours être engagée, mais il faudra pour cela attendre la décision finale de la justice civile.
Merci beaucoup Antoine Siliard, je rappelle que vous étiez notre envoyé spécial sur place. Emmanuel de Boisson, vous m'avez déjà répondu par anticipation sur l'ordination des femmes. Comment qualifieriez-vous l'attitude de l'Église dans ces affaires ? Attitude qui a consisté à étouffer.
Bah oui, elle est très ambiguë. Parce que c'est vrai que l'Église, c'est très difficile de prendre une position quand on ne connaît pas très très bien les dossiers, mais c'est vrai que depuis très longtemps, ces problèmes de pédophilie existent dans l'Église, et l'Église aurait tendance, et encore maintenant, et je trouve ça assez terrible pour les victimes, à fermer les yeux au nom d'une certaine morale, au nom de la religion qui couvre bien des choses. Et au fond, c'est vraiment pour moi un crime ce qui se passe, et ça devrait être très 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 vraiment dénoncé. Et les prêtres devraient être, et l'Église devrait être beaucoup plus ferme sur ces points-là.
Sud Radio, le grand show de l'info,
Philippe David.
Et l'invité du grand show de l'info ce soir est Emmanuel de Boisson pour son livre Balzac amoureux, publié aux éditions Rabelais. Emmanuel de Boisson, Balzac continue sa liaison avec Laure de Berny, alors qu'il a une liaison avec la duchesse d'Abrantès. Laure de Berny venait de la cour de Marie-Antoinette, la duchesse d'Abrantès était la veuve du général Junot, général d'Empire. Quelque part, il réconciliait la monarchie et l'Empire dans cette liaison amoureuse.
On peut le dire, oui, c'est vrai. Il a mené ces deux liaisons, mais il était vraiment très amoureux de l'une et de l'autre. Hein. C'est ça qui est extraordinaire chez Balzac, et on se demande comment il trouvait le temps, tellement il travaillait, de consacrer des moments à ses femmes. Oui, je pense qu'il était très fasciné par la duchesse d'Abrantès, parce que c'est vrai qu'elle avait connu Napoléon étant jeune. Et il aimait beaucoup ce monde-là, puisqu'elle écrivait ses mémoires, qu'il s'est plongé, qu'il s'en est énormément inspiré. Mais je pense qu'il était plus amoureux quand même de Laure de Berny. Ouais.
Et s'il avait écrit le Lys dans la vallée pour Madame de Berny, il écrira La femme de 30 ans pour la duchesse d'Abrantès. Diriez-vous que Balzac était un féministe avant l'heure, puisqu'il défendait l'égalité des sexes dans la première partie du 19e siècle, ce qui est une véritable hérésie à l'époque ?
Il défendait, oui, l'égalité des sexes, tout à fait. Il défendait beaucoup aussi la femme soumise dans son mariage, souvent arrangée, puisque la physiologie du mariage est une charge terrible contre le mariage. Il décrit des scènes effroyables où la femme, vraiment, n'a pas son mot à dire. N'oublions pas que la femme, à l'époque, la femme n'avait strictement aucun droit.
N'oublions pas qu'en France, elles ont le droit de vote en 1945 et le droit de signer un chèque en 1965.
Hein. Voilà. Donc, il conseillait même à ces femmes mal mariées de prendre un amant. Il a été très clair. Et voilà, il a été le premier. C'est pour ça que les femmes l'adoraient. Elles ont été sélectrices, parce qu'elles ont compris qu'il les défendait et qu'il les soutenait dans leur vie qui était terrible. Il l'a vu dans sa propre vie. Ses deux sœurs étaient tellement mal mariées que la pauvre Laurence est morte à 23 ans avec un mari qui ne pensait qu'à jouer. Et Laure n'était pas très heureuse non plus. Voilà. Et donc, toutes les femmes qui l'entourait avait des amants, c'était des mariages plutôt là, justement la duchesse d'Abrantès, son mari s'est suicidé, il était devenu fou à cause de la campagne de Russie, donc voilà. Et donc je crois que c'était le premier féministe, voilà, celui qui vraiment a compris et vraiment l'âme humaine, la physiologie, la psychologie de la femme, et il a voulu vraiment la réhabiliter, oui.
Et outre le féminisme, il s'est intéressé à la politique, il a été plusieurs fois candidat malheureux aux législatives, il a été tiraillé entre deux femmes, la légitimiste marquise de Castres et la républicaine Zulma Garraud.
Oui, alors Zulma Caro était son amie, et effectivement, elle lui reprochait beaucoup son attirance pour la duchesse de Castres, parce qu'elle était totalement, effectivement...
Républicaine,
avant tout. Il en a... Voilà. Mais lui, je pense que ses convictions politiques n'étaient pas vraiment très, très fortes, puisque c'est vrai que il a suivi la duchesse de Castres, il a voulu participer aussi à son journal légitimiste, et puis ensuite, il a adhéré aussi aux idées de Zulma, qui était vraiment l'ami de cœur depuis toujours, puisque c'était l'ami de sa sœur depuis très longtemps. Et oui, je crois qu'il a été à la fin de sa vie influencé par elle, bien qu'il soit tombé amoureux d'une comtesse russe.
La dernière femme de sa vie, justement, c'est Madame Manska, la seule qu'il a épousée.
Oui, il l'a épousée.
Et c'est la seule qui était d'ailleurs plus jeune que lui. Pas de beaucoup, mais plus jeune que lui.
Absolument, elle mentait sur son âge, mais...
C'était pas la seule.
Voilà. Et donc, elle vivait dans un château sublime au fin fond de l'Ukraine, qui était alors sous domination russe. Et ils ont eu une liaison épistolaire pendant 17 ans. Ils se sont rencontrés la première fois à Neuchâtel. Et là, quand elle l'a vu arriver, elle s'est dit, j'espère que c'est pas lui. Elle l'a trouvé laid. Et finalement, elle était elle aussi absolument fascinée par cet homme brillantissime et très enfantin, très gay, très très bon aussi. Et alors, à la fin de sa vie, il est parti en Ukraine en déclarant à Victor Hugo « Je pars en Ukraine, une affaire, j'en rapporterai 10 millions
!» Ça n'a pas été le cas.
Ça n'a pas été le cas. Il est tombé malade, malheureusement, quand il est arrivé là-bas, dans ce château glacial. Il était aveugle, d'ailleurs. Et puis, ils se sont mariés. Il est rentré à Paris avec elle. Donc, il lui avait préparé une sublime maison avec son argent, avec l'argent de Madame Manska, d'ailleurs, qu'il avait meublé. Le valet, pas de chance, était fou. Il avait tout cassé, ce qui était déjà un mauvais présage. Et ensuite, il était si malade qu'il n'écrivait plus et elle s'est désintéressée de l'homme. Elle n'aimait que l'écrivain. C'était une femme très fantasque. Et il est mort sans qu'elle vienne le voir.
Et il l'épouse en mars 1850. Il décède le 18 août 1850. À ses obsèques, il y a le tout Paris. Alors, dernière question. Emmanuel de Boisson, Balzac a eu le privilège, lors de ses obsèques au Père Lachaise, d'avoir Victor Hugo pour dire son oraison funèbre. Si vous aviez dû être à la place de Victor Hugo, qu'auriez-vous dit ?
Oh, j'aurais dit que c'est vraiment... Balzac a bâti une cathédrale. La comédie humaine est pour moi un roman qui est à l'origine du réalisme, d'une modernité incroyable. C'était un homme qui a écrit aussi des contes, des nouvelles fantastiques, qui a compris son époque et qui nous laisse une œuvre gigantesque, une œuvre très dédiée aux femmes d'ailleurs, avec des portraits de femmes merveilleux. Que ce soit la duchesse de Langeais, la cousine Bette, que ce soit Béatrix, que ce soit Eugénie Grandet, il faut relire Balzac et commencer, pour ceux qui n'ont pas encore lu Balzac, par le Père Goriot, qui est un chef-d'œuvre.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Emmanuel de Boisson. Le meilleur succès possible à votre livre, un livre très bien écrit avec de magnifiques illustrations. Et merci d'avoir fait la première oraison funèbre que j'ai entendue en direct à la radio.
Merci.